Entretien de 1956 de maire et la question est la suivante. Lorsqu'on a un mal nettement localisé dans le corps, quelle est la meilleure façon d'ouvrir la conscience physique pour recevoir la force de guérison? Maire répond. Pour cela, comme pour le reste, dans tout ce domaine que l'on a appelé les avant-postes de l'occultisme ou seuil de l'occultisme, chacun doit trouver son propre mouvement. Parce que ce qui est le plus efficace pour chacun, c'est la méthode à laquelle il s'est préparé plus ou moins et qui lui est plus familière. Alors, il est très difficile de faire une règle générale, mais il y a une préparation qui peut être d'un ordre général. C'est méthodiquement d'habituer son corps à comprendre qu'il n'est que l'expression extérieure d'une réalité plus vraie et plus profonde. Et que c'est cette réalité plus vraie et plus profonde qui régit sa destinée. Quoi qu'ils ne s'en aperçoivent pas généralement. On peut préparer le corps par des séries d'observations, d'études, de compréhensions. Alors il y a un nota bene, une note de mer. Comprendre pour le corps, c'est la capacité d'exécuter obtenue par la contagion de l'exemple. Car pour le corps, comprendre, c'est pouvoir le faire. Alors je répète parce que c'est très important. Comprendre pour le corps, c'est la capacité d'exécuter obtenue par la contagion de l'exemple. Car pour le corps, comprendre, c'est pouvoir le faire. En lui montrant des exemples, en lui faisant comprendre les choses comme on le fait comprendre à un enfant. Soit en observant les mouvements de soi-même. Mais généralement là, on est un peu plus aveugle. Soit en observant chez les autres. Et d'une façon plus générale, cette préparation sera basée sur les études reconnues, les faits qui sont patents. Comme celui-ci, par exemple, qu'un certain nombre d'individus placés exactement dans des circonstances analogues éprouvent chacun des conséquences très différentes. On peut même aller plus loin. Dans un ensemble de circonstances données définies, il y a un certain nombre d'individus donnés et définis qui se trouvent dans des conditions apparemment tout à fait identiques. Et pour les uns, les effets sont catastrophiques, tandis que pour les autres, ils s'en tirent sans aucun dommage. Pendant la guerre, on a eu un très grand nombre d'exemples de ce genre à étudier. Dans les épidémies, c'est la même chose. Dans les cataclysmes de la nature, comme les raz de marée ou les tremblements de terre ou les cyclones, c'est la même chose. Le corps comprend ces choses si on lui montre et qu'on lui explique comme on explique à un enfant. Tu vois, il y avait quelque chose d'autre qui agissait là. Pas seulement le fait matériel, brutal, tout seul. Et à moins qu'il n'y mette de la bonne, de la mauvaise volonté, il comprend. Ça, c'est une préparation. Petit à petit, vous utilisez cette compréhension. Il faut, avec un travail méthodique d'infusion de la conscience dans les cellules du corps, infuser en même temps la vérité de la présence divine. C'est un travail qui prend du temps, mais s'il se fait méthodiquement et constamment produit un effet. Alors, vous avez préparé le terrain. Arrive une douleur quelconque provenant d'une maladie quelconque sur un point précis. À ce moment-là, cela dépendra, comme je l'ai dit au commencement, de l'approche qui vous est plus familière. Mais nous pouvons donner un exemple. Vous avez mal, très mal. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Vous souffrez beaucoup. Premier point. Ne pas insister sur la douleur en vous disant vous-même « Oh, comme j'ai mal !»« Oh, ce mal est insupportable !»« Oh, cela devient de pire en pire !»« Je ne pourrai jamais supporter cela !» etc. Tout ce genre de choses. À mesure que vous pensez comme cela et que vous sentez comme cela, et que votre attention est concentrée là-dessus, le mal croît merveilleusement. Alors, premier point, vous contrôlez suffisamment pour ne pas faire cela. Second point, comme je l'ai dit, cela dépend de vos habitudes. Si vous savez vous concentrer, être tranquille, et que vous soyez capable d'amener en vous une certaine paix d'une nature quelconque. Cela peut être une paix mentale, cela peut être une paix vitale, cela peut être une paix psychique. Elles ont des valeurs et des qualités différentes. C'est une question individuelle. Vous tâchez de réaliser en vous cet état de paix et vous essayez d'entrer en rapport conscient avec cette force de paix. Admettez que vous ayez plus ou moins partiellement réussi. Alors, si vous pouvez attirer la paix en vous et la faire descendre dans votre plexus solaire. Parce que nous ne parlons pas des états intérieurs, nous parlons de votre corps physique. Et de là, la diriger d'une façon tranquille, très lente, je pourrais dire, mais très obstinée, vers l'endroit où se trouve la douleur plus ou moins aiguë, et la fixer là. C'est très bien. Ce n'est pas toujours suffisant. Mais si, en amplifiant ce mouvement, vous pouvez ajouter une sorte de formation mentale un peu vivante, pas seulement froide, mais un peu vivante, que la seule réalité est la réalité divine, et toutes les cellules de ce corps sont l'expression plus ou moins déformée de cette réalité divine. Il n'y a qu'une réalité, le divin, et notre corps est l'expression plus ou moins déformée de cette unique réalité. Si par mon inspiration, par ma concentration, je peux amener dans les cellules du corps la conscience de cette unique réalité, tout désordre doit nécessairement cesser. Si à cela, vous pouvez ajouter un mouvement d'abandon, confiant en la grâce divine, alors je ne vous donne pas 5 minutes pour que votre douleur disparaisse, si vous savez le faire. Vous pouvez essayer et puis ne pas réussir. Mais il faut savoir essayer encore et encore et encore jusqu'à ce que l'on réussisse. Mais si l'on fait ces 3 choses-là en même temps, eh bien, il n'y a pas une douleur qui puisse y résister. Voilà. Maintenant, une autre question. C'est ce que je dis la semaine dernière à propos du psychique, qui voit dans son domaine psychique, qui regarde la terre et qui cherche à y trouver un point où il puisse se réincarner dans des conditions favorables. Alors j'ai dit que du domaine psychique, il regarde la terre pour y voir une lumière correspondante. On me demande ce que veut dire lumière correspondante. Je veux dire tout simplement une lumière psychique, parce qu'il y a des gens qui ont un psychique plus ou moins éveillé, et ce psychique plus ou moins éveillé est visible du domaine psychique pour les êtres psychiques. Alors, quand ils voient une lumière quelque part, il trouve que c'est un lieu favorable pour se manifester. Voilà. Alors, une autre question. Douce mère, au sujet de Radha, dans toutes les histoires vishnouites et de nombreux mystiques, il y a toujours des pleurs et des angoisses. Elle a pleuré, le divin n'est pas arrivé. Le divin l'a troublée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle était pourtant la pureté intégrale. Donc, pourquoi ? Cela, c'est en route. C'est quand on est en route, c'est quand on n'est pas arrivé au but. Ils sont cela. Ils insistent beaucoup là-dessus parce qu'ils aiment prolonger la route humaine. Parce qu'ils jouissent de cette route humaine. Et parce que je vous l'ai dit, si vous voulez rester dans la vie, en contact avec la vie, il y a une relativité qui reste nécessairement dans l'expérience. Ça leur plaît comme cela, ça leur plaît de se disputer avec le divin, ça leur plaît de sentir la séparation. Ce sont des choses qui donnent de l'agrément. Parce qu'ils restent dans une conscience humaine et qu'ils veulent y rester. De la minute où il y a une identification parfaite, tout cela est parti. Alors, c'est comme si l'on se privait du plaisir d'une pièce de théâtre. Il y a quelque chose de la vie qui est parti, c'est-à-dire son illusion. Ils ont encore besoin d'une quantité raisonnable d'illusions. Ils ne peuvent pas rentrer de plein pied dans la vérité. Au fond, pour qu'il n'y ait plus de sentiment de séparation, il faut que vous ayez réalisé en vous-même une identité parfaite. Et une fois que l'identité parfaite est réalisée, eh bien l'histoire prend fin. Il n'y a plus rien à raconter. C'est pour cela qu'il est dit que si le monde, si la création réalisait l'identité parfaite avec le divin, il n'y aurait plus de création. Si vous réalisez cette identité parfaite où il n'y a plus de possibilité de distinction, mais si l'univers tout entier réalisait cette identité parfaite, il n'y aurait plus de possibilité de distinction. Eh bien, il n'y aurait plus d'univers. Ce serait le retour au pralaya. Alors, la solution est de trouver l'ananda, même dans le jeu, dans cet échange que l'on donne et l'on reçoit, où l'on semble être deux. C'est pour cela qu'il garde la dualité. Autrement, dans l'unité, il ne reste plus que l'identité. Si l'identité est complète et parfaite, il n'y a plus d'objectivation. Mais j'ai dit cela quelque part, quand j'ai parlé de l'histoire de l'amour. Je pense que personne, je n'en sais rien, probablement il y a très peu de gens qui ont remarqué cette distinction. J'ai dit cela commence par l'ananda de l'identité. Et qu'après tout le circuit de la création, ça aboutit à l'ananda de l'union. Alors, il y a un nota bene. Plus tard, quelqu'un a demandé à Mère « Qu'est-ce que c'est que ça, l'univers ?» Ce à quoi Mère a répondu « J'ai dit ça exprès, pour ne pas préciser. Je n'aime pas le mot création. On a tout de suite l'impression d'une création spéciale, comme si c'était fait de rien. C'est lui-même. Et ce n'est pas l'univers qui commence. C'est l'univers qui est commencé. » Comment dire cela? Ce n'est pas l'univers qui prend l'initiative du mouvement. Et si l'on dit que le Seigneur a commencé l'univers, cela devient faux. Tout cela, ce sont des idées tellement fixes. Si je dis « Seigneur a commencé l'univers », on voit tout de suite le Dieu personnel qui décide de commencer l'univers. Et ce n'est pas cela. J'avais dit cela à propos de l'amour, de la manifestation de l'amour qui est le suprême Ananda. Shobindo l'a dit aussi. Par-delà l'être et le non-être, il y a quelque chose qui est, qui se manifeste en tant qu'amour suprême et qui est à la fois l'être et le non-être. Et la première manifestation de cela, c'est l'ananda de l'identité. Au fond, c'est l'identité qui prend conscience de soi dans l'ananda. Alors, ça fait tout le chemin à travers toute la manifestation et toutes les formes que prend l'amour. Et ça retourne à l'unité par l'union. Et cela ajoute à cet ananda, l'ananda de l'union, qui n'aurait jamais existé si le circuit n'avait pas été fait. Eh bien, s'il n'y avait pas eu ce circuit, il n'y aurait pas d'ananda de l'union. Il n'y aurait que l'ananda de l'identité. N'ayant pas de circuit, il n'y aura pas d'union. C'est peut-être un peu subtil, mais c'est un fait. Et c'est peut-être justement pour que cet ananda de l'identité trouve son aboutissement et son couronnement, pourrais-je dire, dans l'ananda de l'union qui est tout le circuit qui a été fait. Mais s'il y a une identité parfaite, il ne peut y avoir d'union. Le sentiment d'union n'existe pas car il implique nécessairement quelque chose d'autre que l'identité parfaite. Il peut y avoir union parfaite, mais il n'y a pas identité parfaite. N'essayez pas de comprendre avec les mots et votre tête, parce que ces deux mots expriment des expériences tout à fait différentes. Et pourtant, le résultat est identique. Mais sinon, les riches de tout ce qui était dans l'autre, la richesse de toute l'expérience, de toute l'expérience universelle. Une dernière question, si l'expérience de l'union est parfaite consciemment, pourquoi certains mystiques continuent-ils d'avoir toutes sortes d'émotions avec des gens ordinaires et pleurent et se lamentent? Réponse de Mère. C'est peut-être parce que l'union n'est pas constante. Question. Mais Radha est sincère dans son aspiration. Moi, je crois que c'est de la littérature, mes enfants. Enfin, c'est certainement pour vous donner un tableau artistique de la vie humaine telle qu'il est. Mais ce sont des gens qui vivent dans le vital et qui aiment cela. On ne peut pas parler de cela parce que... Justement, j'ai une autre question ici, une toute petite question mais qui ne manque pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui essaye de se préparer à recevoir le supramental. Et dans cette préparation, il est question entre autres de prière et méditation. Et alors cette réflexion qui est très franche et qui a de très peu, que très peu de gens auraient le courage de faire, c'est comme ceci. Question. Je me mets à méditer, à prier avec ferveur et ardeur, Mon inspiration est si intense et ma prière pleine de dévotion. Eh bien, au bout d'un temps, plus ou moins long, voilà l'aspiration qui devient mécanique et la prière purement verbale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Réponse de mère. Ce n'est pas un cas individuel, c'est un cas absolument général. J'ai dit déjà plusieurs fois que les gens qui prétendent méditer pendant des heures tous les jours et qui passent leur journée à prier, moi je réponds que ça doit être les trois quarts du temps absolument mécanique, c'est-à-dire que cela perd de toute sa sincérité. Parce que la nature humaine n'est pas faite pour cela et que le mental humain n'est pas construit pour cela. Pour se concentrer et méditer, il faut faire un exercice que je pourrais appeler musculaire mental de concentration. La même chose pour l'élan de la prière. Tout d'un coup, une flamme s'allume. Vous avez un élan enthousiaste, une grande ferveur, et vous exprimez cela en mots qui, pour être vrais, doivent être spontanés. Il faut que cela vienne du cœur, tout droit, sans passer par la tête avec ardeur. C'est cela, la prière. Si ce sont des mots qui se cognent dans votre tête, ce n'est plus une prière. Si vous ne jetez pas des aliments dans la flamme au bout d'un certain temps, elle s'éteint. Si vous ne donnez pas une détente à vos muscles, si vous ne relâchez pas le mouvement, vos muscles perdent la capacité de l'attention. Alors il est tout à fait naturel et même indispensable que l'intensité du mouvement cesse au bout d'un certain temps. Naturellement, c'est la même chose. Celui qui a l'habitude de la concentration peut se concentrer pendant beaucoup plus longtemps que celui qui n'en a pas l'habitude. Mais pour tout le monde, il y a un moment où il faut se laisser aller, se détendre pour recommencer. Par conséquent, que ce soit de tout de suite ou au bout de quelques minutes ou de quelques heures, si le mouvement devient mécanique, cela veut dire que vous êtes détendu et qu'il n'est plus du tout nécessaire de prétendre que vous méditez. Alors, je vais terminer par quelque chose de mon être s'élance vers toi et veut rester à tes pieds. Cette action se répète presque spontanément et sans émotion. Y a-t-il une signification ? Mère, c'est ton être psychique. L'individualisation de ton âme qui veut réaliser la vie divine pendant sa vie humaine sur terre. Alors je dépose cet entretien de 1956 à Douce Mère et à Sri Aurobindo. Merci Mère, merci Sri Aurobindo.